Nous allons aborder maintenant la troisième partie, le chapitre 3, qui parle de l'image de Dieu. J'étais humble lycéen quand j'ai découvert le penseur français Blaise Pascal. Je crois que c'est le plus grand génie français de l'histoire. Mais ce qui m'intéressait à l'époque, c'était pas ses écrits philosophiques et religieux. C'était ses écrits sur les mathématiques. Parce que c'est lui qui a plus ou moins créé la branche des maths qu'on appelle les probabilités. C'est plus tard que je suis devenu fan de sa pensée philosophique et religieuse. On va lire un texte de lui. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Ah ben les gens qui se suicident, ils se suicident parce qu'ils sont déçus de ne pas avoir trouvé le bonheur. Cela s'applique à tout le monde, à vous, à moi et à chaque personne avec laquelle vous parlerez de Dieu et du christianisme. L'objet de tout ce que nous faisons, c'est le bonheur. C'est quelque chose de bien plus profond que le plaisir. Faut pas confondre ces deux choses. C'est plus profond que le plaisir d'un bon repas ou d'une voiture neuve. C'est même quelque chose de plus profond que le bonheur de l'amour humain. Alors, quel est ce bonheur? Et comment le trouver? Continuons avec Pascal. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, depuis le commencement de l'histoire, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tous se plaignent. Princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades, de tout pays et de tout temps, tous les temps, de tous âges et de toutes conditions. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes de secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Alors, Pascal évoque ici une aspiration, une soif, une faim que nous connaissons tous. Et il dit que la réponse à notre quête sans fin consiste à devenir ce pourquoi nous avons été créés, ce à quoi nous sommes destinés. Notre problème, c'est notre tendance à chercher le bonheur là où il n'est pas. Dans le prestige, dans le plaisir, dans l'argent, la célébrité, les expériences sentimentales, l'aventure, le pouvoir. Mais ces choses ne peuvent pas remplir le gouffre infini dont parle Blaise Pascal. Et c'est dans ce contexte spirituel et théologique qu'on peut commencer à comprendre pourquoi est-ce que les gens qui ont tout ce que le monde peut apporter, pourquoi ils sont si insatisfaits. C'est aussi dans ce contexte que les paroles de Jésus paraissent encore plus audacieuses. Alors que tous les autres maîtres religieux de l'histoire orientaient leurs disciples vers une idée, vers une discipline, vers une voie, Jésus appelait les gens a trouvé tout ce qu'il cherchait en lui-même. Regardez, Jean 6, verset 35. Jean 6, c'est probablement le chapitre le plus extraordinaire de la Bible. Jésus leur dit, c'est moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif, jamais. Dans notre dernier chapitre, nous avons comparé l'évangélisation à la tentative de rappeler aux autres des choses, bon, pour, quels que soient les motifs de cela, quels que soient les chemins qu'ils ont suivis, des choses qu'ils ont oubliées. Parmi ces choses-là, c'est justement cette question soulevée par Blaise Pascal. Évidemment, je le dis encore, le meilleur moyen de rappeler cela aux autres, c'est d'être soi-même une illustration vivante de ce message. Et là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est de loin le meilleur moyen. Et c'est ça le secret, vous savez, les grands saints du passé. Regardez l'effet qu'ils ont eu sur la vie des autres. L'influence qu'ils ont eue. Parce que les gens regardaient ces saints extraordinaires et disaient, mais c'est ça que je veux. C'est ça, au fond, de moi-même que j'ai cherché. Nous rappelons aux autres, aussi quand nous racontons notre propre histoire avec Dieu. Voici ce qui m'est arrivé à moi. Mais ce rappel doit souvent aller plus loin que simplement un exemple et simplement un témoignage. On doit aussi présenter des preuves et des arguments et des raisons de notre foi. Et c'est là qu'intervient l'apologétique. Alors, quand il s'agit de ceux qui nient l'existence de Dieu ou ceux qui ont de doutes sérieux, hein, disons les athées et les agnostiques, l'apologétique, c'est l'art de mettre le doigt sur des tensions qui existent entre deux choses. Et voici le schéma qu'on va suivre à partir de maintenant. Il y a une tension entre deux choses et notre but, c'est de mettre le doigt sur ces tensions. Premièrement, ce que ces gens sont en eux-mêmes. Ils sont des êtres créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est la réalité de ce qu'ils sont. La deuxième chose, c'est la vision du monde à laquelle ils adhèrent. Le matérialisme, l'athéisme. Il y a une tension entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils croient. Et ça, c'est notre stratégie. Hein. Je le dis tout de suite, c'est de mettre le doigt sur les tensions qui existent à l'intérieur de l'athéisme. On fait ça avec douceur et respect. L'ennemi, ce n'est pas notre ami athée. D'accord? Nous sommes en train de réfuter une idée et non pas d'écraser une personne. Alors, donc, si vous ne me suivez pas encore, c'est pas grave parce qu'on va passer le reste de la journée à voir cela, à éclairer, à illustrer ce processus. En attendant, j'aimerais vous présenter trois points principaux de cette approche de l'apologétique. Premièrement, bon, on commence, hein, on va poser un fondement d'abord. Tout le monde a une vision du monde. Chacun de nous en a une, même s'il n'a jamais pris le temps de bien l'analyser ou même d'y réfléchir. Alors, c'est quoi une vision du monde? C'est le point de vue que nous avons sur la réalité globale. C'est un peu des lentilles, hein? C'est un peu les lunettes à travers lesquelles nous interprétons les données qui nous viennent de l'extérieur. C'est l'ensemble de nos croyances fondamentales. Notre façon de regarder la vie, le monde, l'existence, etc. Le christianisme est une vision du monde. Le panthéisme oriental, l'hindouisme est une vision du monde. Le matérialisme est une vision, je parle matérialisme, non pas moral, amasser des biens, Mais le matérialisme philosophique est une vision du monde. Et nous connaissons très bien cette vision du monde, c'est celle de notre société, qui dit, c'est la doctrine d'après laquelle rien n'existe en dehors des substances matérielles et physiques, et que toutes nos expériences peuvent être expliquées en fonction de ces substances physiques. Alors, quel que soit le chemin par lequel nous y parvenons, chacun de nous, qu'il le sache ou pas, adhère à une vision du monde essentielle. Notre vision du monde, c'est comme, un peu comme une hypothèse scientifique. On va rester attaché à cette hypothèse, à cette vision du monde, tant qu'elle explique notre expérience. Tant elle explique bien les données que nous expérimentons dans la vie. Au deuxième fait, un fait est récalcitrant quand nous n'arrivons pas à le faire entrer dans notre vision du monde. C'est une donnée qui refuse obstinément d'entrer dans cette vision. Une donnée qui refuse de coopérer. C'est un fait réel, incontestable, que notre philosophie n'arrive pas à expliquer ou à justifier. Il ne cadre pas. Il ne joue pas le jeu. Quels que soient les efforts que nous pouvons déployer, ce fait récalcitrant ne bouge pas, ne disparaît pas, ne s'en va pas. Et voici le point crucial. Par son refus de s'y intégrer, un fait récalcitrant devient un indice que notre vision du monde est fausse. Par exemple, si un jour on trouve un cadavre en Palestine et on peut prouver sans l'ombre d'un doute que c'est le cadavre de Jésus de Nazareth, ben ça serait un fait récalcitrant pour la vision du monde chrétien. Vous voyez, ça prouverait que notre vision du monde est fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Un fait récalcitrant. Ça n'entre pas dans notre vision. Bon, troisièmement, votre ami athée est lui-même le fait récalcitrant qui fournit l'indice le plus fort que sa vision du monde naturaliste est fausse. Il est fort probable que votre ami, si c'est un occidental, hein, bon, nous sommes dans l'Occident ici, adhère à une vision du monde qu'on appelle le naturalisme ou le matérialisme. C'est la même chose. L'univers, et nous connaissons, l'univers, c'est comme une énorme mécanique, une énorme machine. Et la seule chose qui peut nous permettre de connaître cette machine, c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique est la seule façon de comprendre cette mécanique énorme qu'est l'univers. La réalité est un système fermé, constitué d'un réseau de causes et d'effets. Causes et effets purement physiques. Tout le reste, Dieu, les anges, la mort, etc., est spéculation, opinion, subjectif, irréel. Hein, c'est notre maison de la vérité à deux étages. Il va sans dire que ni Dieu, ni les âmes humaines, ni les êtres spirituels, les anges et les démons, n'ont aucune existence objective. Ils n'existent que dans la tête de ceux qui y croient. Mais ils n'ont aucune réalité réelle. D'accord? Rien n'existe en dehors de la matière et de l'énergie. Ça, c'est la vision du monde des âmes de science athées aujourd'hui, et aussi de pratiquement tous les occidentaux athées que nous risquons de rencontrer un jour. Ça, c'est leur vision du monde par défaut. L'argument que nous allons développer, c'est celui-ci. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, nous sommes le fait récalcitrant qui demeure l'erreur, qui démontre plutôt l'erreur de la vision du monde naturaliste. Les aspects les plus fondamentaux de notre être et de notre expérience, le sens de la vie, la dignité humaine, la morale, notre personnalité, le libre arbitre, la conscience, l'intelligence, la connaissance, toutes ces choses résistent à toute explication naturaliste. Et c'est plus fort que ça. Non seulement ces choses résistent à toute explication naturaliste, mais le naturalisme ne peut même pas admettre en principe leur existence. Mais ils ont deux étages. Ce qui est à l'étage n'existe pas réellement. Si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, on va faire ça toute la journée. Vous finirez par comprendre. Alors, en tant que vision du monde, le naturalisme se heurte à l'être humain, à la personne humaine, créée à l'image de Dieu. Le naturalisme ne peut pas rendre compte rationnellement de l'homme en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Ce n'est pas comme si les athées ignoraient ce problème. Ah, ils le voient très bien, ce problème. Regardez le philosophe athée John Searle. On va lire beaucoup de ses œuvres. Il est très connu. Hein? Il y a dans la philosophie contemporaine une question qui prime sur toutes les autres. Où nous situons-nous? Comment l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes en tant qu'agent conscient, créateur de sens, libre, rationnel, etc., peut-elle s'accorder avec un univers qui consiste entièrement de particules physiques brutes, dénuées de conscience, de sens, de liberté, de rationalité? Bah, c'est une bonne question. Bah, il a posé la bonne question. Comment notre ami athée prétend-il s'intégrer lui-même dans cette vision de l'univers, je cite, qui consiste entièrement de particules physiques brutes, dénuées de conscience, de sens, de liberté, de rationalité? Ça, c'est la question que je vous propose de regarder aujourd'hui, dans des aspects différents.